Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Quelqu'un dans cette salle est très fan de cette princesse, mais je ne dirais pas qui. Kate Middleton, prise ici en photo avec ses enfants. C'est un vrai défi pour les familles dirigeantes, les familles royales, de se mettre en scène face au public, de telle sorte à montrer leur humanité. Ici, très clairement, on voit une maman entourée de ses enfants qui sourit. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Cette photographie, cependant, n'a pas de date et a même fait l'objet cette semaine d'un photogate, puisque en réalité, cette photo a été largement retouchée et pose plein de questions sur son origine, sur sa composition, sur la réalité de cette photographie. Alors, sans rentrer dans des précisions sur les particularités de la famille royale anglaise, le parallèle est très simple avec le texte que nous venons de lire. La scène qui est décrite ici concerne une princesse anglaise et sa vie quotidienne. Mais cette mise en scène ici, qui est là pour transmettre un message particulier, c'est un exercice de communication, peut être rapprochée à ce que nous lisons dans les évangiles au sujet de Jésus. Les évangélistes, à travers leurs récits, nous mettent aussi en scène une histoire qui concerne Jésus et qui nous apprend des choses sur qui est Jésus, sur le message qu'il a à nous transmettre et sur ce sur quoi il veut nous enseigner. La différence près, c'est que concernant ce qui est transmis dans les évangiles, ce sont des enseignements et des descriptions qui sont dignes de confiance. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de photomontage, et il n'y a pas d'arrière-pensée derrière cette description. Le texte qui nous intéresse ce matin se trouve donc dans l'évangile de Marc, cet évangile que nous parcourons depuis juin 2023, et qui est composé de deux parties. Donc les chapitres 1 au chapitre 8, verset 30, il s'agit de la présentation du serviteur et de son ministère. Et puis, à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin, il s'agit du chemin de souffrance du serviteur. Le texte qu'on étudie donc ce matin se trouve dans cette deuxième partie où l'on s'intéresse au chemin de souffrance du serviteur. Et ce texte a une particularité, c'est qu'il se place à la suite de ce que vous avez entendu avec David il y a 15 jours sur la question du divorce, sur une thématique autour de la famille. Notre texte montre donc un paradoxe, à savoir les adultes seront comme des enfants. Et je vous propose de voir trois choses à partir de ces quatre versets que nous avons sous les yeux ce matin. J'aimerais vous parler d'abord de la question d'empêcher les enfants de venir à Jésus. Est-ce que c'est possible? Entrer dans le royaume de Dieu et être enlacé par les bras de Jésus. Empêcher les enfants de venir à Jésus, pour l'interrogation. Jésus, ici, évoque deux aspects. Il dit d'une part, laissez les petits enfants venir à moi, et puis en même temps, il dit à ses disciples, et ne les en empêchez pas. On peut voir cette expression, cette citation de deux manières. On peut s'intéresser soit à la première partie, qui est une manière positive de poser les choses. Laissez les petits-enfants venir à moi. Ou on peut s'intéresser à la deuxième partie, qui est une manière négative de poser les choses, à savoir, ne les en empêchez pas, ça veut dire qu'il est possible d'empêcher des enfants de venir à Jésus. Et alors, comme vous êtes tous de bonne humeur ce matin, je vous propose de nous intéresser à la deuxième partie. Est-ce que c'est possible d'empêcher des enfants d'entendre l'Évangile? Ou en tout cas, de rencontrer Jésus? si on veut rester dans le contexte du texte. Eh bien, la réponse est oui. Et il se trouve que, justement, cette semaine, il y a un article qui est paru sur le blog de l'éditeur BLF qui a exposé cette idée-là. Parler de Dieu à nos enfants, trois erreurs à éviter à tout prix. Alors, la première de ces erreurs, ce serait de ne raconter que des petites histoires de la Bible. À savoir, comme je le fais avec mon fils qui a 6 ans, prendre une Bible où il y a à chaque fois une page sur l'histoire de Noé, une page sur l'histoire de Jonas, etc., etc. Quelle est la limite de ce mode de récit? C'est qu'en fait, ça coupe la Bible en petits morceaux et on ne présente pas à l'enfant la grande histoire de l'Évangile qui commence de la Genèse et qui se termine dans l'Apocalypse. Deuxième erreur, c'est de transformer les grands hommes de la Bible en super-héros Marvel. Et j'y crois totalement dans ce parallèle, mais il a des limites dans la mesure où le seul super-héros dans lequel on doit mettre notre confiance, c'est bien sûr Christ lui-même, Dieu lui-même. Et peut-être à l'occasion, ce sera un message sur les super-héros que vous pourrez entendre mais plus tard. Troisième erreur, c'est laisser les enfants deviner par eux-mêmes les vérités de la Bible. Alors, à savoir, vous savez, c'est si vous êtes parent, si vous êtes grand-parent, ou tonton, ou tata, vous avez parfois eu ces enfants qui viennent vers vous en disant « Mais, et là vous vous dites, qu'est-ce qu'il va me poser comme question ?»« Mais papa, pourquoi si Dieu existe, on ne le voit pas ?» Ou pourquoi, si Dieu est fort, je me suis fait gronder à l'école aujourd'hui alors que je lui ai demandé de m'aider, etc. Voilà ce genre de questions devant lesquelles on peut soit esquiver, parce que des fois on n'a pas la réponse, on ne s'était jamais posé la question en fait, on ne s'en souvient plus parce qu'on oublie avoir été enfant, alors qu'en réalité ce sont des opportunités de présenter ce qu'on a compris de Jésus, de ce qu'on a compris de l'Évangile, et puis de transmettre des bases solides et intéressantes pour ces enfants, sachant que vous savez que la pire manière d'enseigner à un enfant, c'est de vouloir lui enseigner quelque chose qu'il n'a pas envie d'apprendre. Alors quand il est demandeur, autant en profiter et puis répondre à sa question. Alors, il se trouve que ce texte nous donne en fait très peu de précision. Ici, j'ai trouvé cette peinture du XVIIIe siècle qui représente justement cette scène, Jésus-Christ bénissant les enfants. Et vous voyez sur cette scène, très clairement, il y a des détails assez géniaux. On voit ici les disciples qui ne sont pas contents, probablement Pierre ici, Jacques, et puis Jean, là, qui est plus jeune que les autres, qui veulent empêcher les enfants de venir à Jésus. Ils tirent une tronche. Et puis, on a ces enfants, et là, très clairement, voilà, ils ont 6 ans, 7 ans, c'est des petits-enfants. Et puis, on a aussi la précision de qui envoie ses enfants vers Jésus. Ce sont des mamans. Où sont les papas? Bonne question. La réalité, c'est que le texte, de manière intéressante, ne nous donne pas d'informations. De quels enfants il s'agit? Quel âge ils ont? Combien d'enfants? Quels parents? Est-ce que c'est les mamans, les papas, les grands-parents? Le texte est très vague et ne nous donne pas de précision. Ce qui est intéressant parce que ça permet à ce texte d'avoir une portée très large. Puisque par enfant, on peut entendre mineur, et donc c'est un texte que l'on peut élargir à beaucoup de situations. Peut-être que c'est même une allusion, cette expression « ne les empêchez pas », à la question qui était posée aux baptisés dans l'Église primitive. On demandait aux candidats au baptême « qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé ?» Et à l'Assemblée, « qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé ?» Et l'idée de dire « ne les empêchez pas », qu'est-ce qui empêche ces enfants de venir vers Jésus? Et la réponse vient de Jésus lui-même, « laissez les petits-enfants venir à moi ». Alors, intéressant, il ne dit pas « laissez-les être amenés à moi », c'est « laissez-les venir à moi ». Ce qui valide l'idée qu'un enfant peut venir de lui-même au Seigneur. Il se trouve que Il se trouve que j'ai reçu cette semaine le bulletin d'information de l'AEE, qui veut dire Association Évangile et Enfance, qui travaille parmi les enfants. Et dans ce dépliant, dans ce journal, il y a le témoignage de Samuel Richard. Vous connaissez peut-être Nathalie Metz, qui a été pendant longtemps au Tchad, engagée aussi au Pôle Mission. Suzanne Kosten a pris la suite de son travail et on l'a soutenue comme, en tant qu'église. C'est le neveu de Nathalie Metz. Il a 16 ans et il est sportif de haut niveau en escalade. Son rêve, 2028, médaille d'or olympique. Et gardez son nom en tête parce que c'est probable qu'il y arrive. Il a 16 ans, il est déjà dans le top 15, toutes catégories confondues, des meilleurs grimpeurs en France. Dans sa catégorie, il fait surtout du bloc. C'est un truc, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Ça me dépasse un peu, j'ai essayé, mais... Il se trouve que dans ce petit témoignage où il raconte son expérience, donc il a 16 ans, et il explique que l'escalade, c'est vraiment ce qu'il fait. Il passe 4 heures par jour à faire de l'escalade en sport-études, mais il explique que tout ce qu'il fait en escalade, il en parle au Seigneur, et qu'il le fait grâce au Seigneur, et il le fait tant que le Seigneur lui permet de le faire. Et ce gamin, il a 16 ans, si on peut en permettre l'expression de gamin à quelqu'un de 16 ans, excusez-moi les jeunes. Mais voilà, il a 16 ans et il m'apprend quelque chose et il me parle de ce qu'il vit avec le Seigneur. Ce qui est une bonne illustration sur l'idée que ces enfants ici qui viennent vers Jésus, ils ont quelque chose à vivre avec le Seigneur. Et il n'y a pas besoin d'être majeur et vacciné pour pouvoir avoir une relation avec Jésus. Alors, est-ce qu'on peut accepter Jésus dans son cœur alors qu'on est très jeune? Je pense que dans la salle, si je faisais un petit sondage, c'est certainement qu'on serait dans la moyenne des personnes qui ont rencontré le Seigneur entre 7 et 15 ans, qui est le cas de la majeure partie des chrétiens évangéliques d'après les sondages. Alors l'autre question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on peut baptiser un enfant? Alors il y a bien sûr ce débat du baptême d'enfant qui est pratiqué dans certains milieux protestants, qui est un baptême de nourrisson. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler ce matin. C'est la question de à partir de quel âge on peut baptiser un enfant qui demande lui-même d'être baptisé et qui nous semble avoir une relation avec le Seigneur et qui semble motivé pour avancer avec le Seigneur. Alors, dans quoi je m'embarque? Il se trouve que on a reçu par David un petit résumé, une réflexion de l'église CAEF de Pierre Latte qui a réfléchi à ce sujet. Et et l'argumentation est intéressante parce que il y a deux choses à prendre en compte. Il y a que dit la Bible à ce sujet. Et en fait, on n'a pas de texte, de doctrine clair et net pour dire le baptême doit se faire à partir de 22 ans. Il n'y a pas de texte qui permet d'affirmer. Donc il y a une marge de réflexion qui est propre à chaque église. Et puis la deuxième réflexion intéressante, c'est que le contexte culturel dans lequel on vit est intéressant. Dans notre contexte culturel français, la loi considère qu'un enfant devient responsable de ses actes devant la justice à partir de 13 ans. Ce qui nous donne une indication sur la manière dont notre pays considère la transition entre l'enfance et l'idée de, pas d'adulte, mais en tout cas d'autonomie, de responsabilité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la culture juive de l'époque, de Jésus, 13 ans, c'était aussi l'âge de la bar mitzvah et donc du passage à cet âge adulte de responsable et autonome. Alors on pourrait dire, oui, c'est 13 ans, très bien. Dans la fiche de l'église de Pierre Latte, eux vont plutôt dans l'idée de dire que l'entrée dans le lycée est une meilleure étape pour considérer que le jeune est mûr pour le baptême, dans la mesure où, dans notre système scolaire français, le passage du collège au lycée est vraiment un saut en termes de maturité et puis de responsabilité dans la vie active, en tout cas pour les filles. Mais ça, c'est personnel. Bref, pour résumer, si vous devez retenir une chose, à quel âge baptiser un enfant, dans notre assemblée, et sur la base de ce que cette église CAEF Sœur propose, nous sommes en faveur d'attendre, de prendre le temps de la réflexion et de ne pas précipiter les choses pour aller vers le baptême d'un mineur. Tout en encourageant les jeunes à approfondir leur engagement, leur esprit de service et leur investissement dans la vie de la communauté, qui est bien sûr tout à fait possible. Le texte nous parle aussi du défi d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors le royaume de Dieu, la définition vous a déjà été donnée à plusieurs reprises parce que c'est le grand thème de Marc dans cette deuxième partie. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. C'est là où sa volonté est respectée, c'est là où sa volonté est accomplie. Ce royaume de Dieu, il peut faire référence au royaume actuel, au temps de Jésus, qui se poursuit aujourd'hui, là où le roi est présent et là où il est au milieu des hommes et où sa vie obéit aux règles fixées par Dieu. Mais ça peut aussi faire référence au royaume à venir, dans lequel on sait que Christ règnera et où il n'y aura plus d'opposition, où son autorité sera visible et imposée à tous. Donc ce royaume de Dieu s'entend comme le déjà aujourd'hui et comme ce qui n'est pas encore accompli, ce qui est à venir. Alors pourquoi c'est intéressant cette temporalité? Parce que la notion de... Vous savez, en français, on peut parler de royauté, on peut parler de règne, on peut parler de royaume. Ces trois expressions, on les retrouve en hébreu, mais en langue grecque, il y a un seul mot. C'est le mot basileia. Ce qui veut dire que ici, on est dans une traduction en français à partir du grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot employé, c'est le mot basileia. Et donc, selon le contexte, le traducteur peut choisir soit de traduire ce terme de basileia par royauté, par règne ou par royaume. Et il se trouve que dans le contexte précis de ce passage, qui dit donc celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, ce royaume de Dieu pourrait être aussi compris comme le règne de Dieu. Donc celui qui n'accepte pas, qui n'accueille pas le règne de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. L'idée que c'est l'idée d'accepter que Dieu soit le Seigneur, le Maître, le Roi de ma vie. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? Alors, de manière schématique, un enfant, c'est quelqu'un qui est, et on est d'accord là-dessus, qui dépend de quelqu'un d'autre, qui dépend de ses parents, qui dépend des adultes qui l'entourent. Et puis, ce qu'on attend d'un enfant, c'est qu'il soit obéissant. Il se trouve que, alors que c'est ce qu'on attend d'un enfant, l'obéissance est peut-être la chose la plus difficile qu'il soit donnée aux parents dans l'éducation de leur enfant. Et il se trouve que c'est à l'image de ce défi qui nous est proposé ici par Jésus, puisque lorsqu'il dit pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accueillir le règne de Dieu, ça veut dire qu'il faut accepter de se soumettre à Dieu et de devenir obéissant à Dieu. Or, accepter que je ne sois plus le maître de mon existence, le pilote de ma vie, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui soit le maître de ma vie, qui soit le pilote de ma vie, qui soit le capitaine de mon navire, etc., c'est quelque chose qui est impossible et qui est complètement contraire à notre bon sens. Autrement dit, Jésus est en train de proposer ici un défi incroyable à ses disciples et à nous aujourd'hui. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Il faut devenir comme un petit enfant, obéissant et dépendant comme un petit enfant. Mais en fait, c'est impossible. Parce que c'est complètement contraire à notre manière de fonctionner et à notre état d'esprit qui consiste à être autonome, indépendant, sûr de nous et maître de notre destin. Et pourtant, l'objectif est incroyable. Pourquoi ? Parce que dans ce dernier verset, Jésus dit, enfin le texte nous dit, puis il les prit dans ses bras, donc puis Jésus les prit dans ses bras, et les bénit en posant les mains sur eux. Que représente le toucher, l'imposition des mains dans le Nouveau Testament ? C'est systématiquement le moyen de transmettre une bénédiction, de transmettre quelque chose de positif, de transmettre quelque chose d'encourageant. Les mains, ça peut servir à guider dans la bonne direction et puis en même temps à protéger. Bref, Jésus, en invitant ses enfants à venir vers lui, leur montre qu'il est proche d'eux, qu'il s'identifie à eux, qu'il est de la même nature qu'eux, qu'il est pleinement homme, mais qu'il peut prendre pleinement soin de ses enfants. Et il se trouve que c'est exactement ce que Dieu veut nous offrir en venant à lui et en l'acceptant comme le maître et le seigneur de notre vie. Il veut nous donner la possibilité de venir dans ses bras et de pouvoir nous aussi profiter d'une position de sécurité, d'une position de force, d'une position où nous soyons en confiance et où nous puissions être délivrés et libérés de tout ce qui dans notre vie peut nous inquiéter, nous angoisser, nous déstabiliser et nous faire vaciller. Mais comment arriver dans les bras de Jésus ? Le texte nous dit qu'il faut devenir comme un petit enfant. Mais comment devenir un petit enfant ? Il faut accepter que Jésus soit le maître de nos vies. Mais comment accepter que Jésus soit le maître ? C'est impossible. Et ce qui est impossible, c'est notamment de le faire par la force de nos propres bras. Si vous voyez ici mes muscles, ou si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Mes muscles ne sont pas suffisants pour pouvoir obtenir de Jésus qu'il m'ouvre ses bras et qu'il m'accepte dans ses bras. Parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma charité que je peux obtenir l'amour de Jésus. C'est uniquement parce que lui a fait ce qu'il fallait pour que ses bras soient ouverts pour moi. Et vous savez ce que Jésus a fait ? Il a accepté, et les bras m'en tombent, il a accepté de baisser les bras. Lorsqu'il est allé à la croix, il a accepté de laisser ses bras disponibles pour être crucifié sur la croix et pour ne plus avoir de force dans ses bras, à tel point que la souffrance était horrible sur cette croix. Il a accepté sur la croix de mettre fin à la force qu'il avait dans ses bras pour aller et vivre la vie comme il le souhaitait, pour être complètement obéissant à son Père et se laisser crucifié par ceux qui l'ont crucifié. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté que ses bras deviennent sans force ? Eh bien, tout simplement pour que nous ayons la force de pouvoir venir à lui et être accueillis par ses bras d'amour. Et vous connaissez ce chant ? Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi. Mon Père, je viens vers toi. Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour. Pourquoi est-ce que c'est possible d'avoir accès aux bras de Jésus ? Uniquement parce que lui-même s'est fait enfant et à la croix, il a accepté l'obéissance, la dépendance et même l'abandon de la part du Père, pour que nous ne soyons plus orphelins, mais que nous puissions être acceptés par ses bras d'amour. On ne va jamais voir un médecin quand on n'est pas malade, en principe. Mais parce qu'on est inquiété, parce qu'on a des symptômes. Le cœur qui bat trop fort, des boutons. Ou alors parce qu'on fait du préventif, parce qu'on a un rendez-vous qui est tous les X années, qui nous est conseillé par l'Agence nationale de la santé. 2000 ans en arrière, il n'y a pas de prévention de médecine. n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de centre hospitalier universitaire, il n'y a pas d'HFME, comme on a à Lyon ici, pour les enfants. Les parents qui amènent ici leurs enfants à Jésus, c'est quoi dans leur tête? Quelle est l'espérance de vie de leurs enfants? Elle est extrêmement faible. Le taux de mortalité est énorme, l'espérance de vie de ces enfants est extrêmement faible, il n'y a pas de service de médecine. Bref, ces parents qui envoient ces enfants vers Jésus, ils envoient ces enfants vers Jésus comme un médecin qui va prendre soin d'eux et qui va les protéger, augmenter leur espérance de vie. Donc c'est un réflexe qui est tout à fait compréhensible. Et pourtant, comme ces enfants, même si aujourd'hui notre espérance de vie a augmenté, nous avons 100% de chance de mourir. Et si ces enfants ont pu recevoir une protection de Jésus en étant dans ses bras, moi aussi j'ai besoin aussi d'être dans les bras de Jésus pour être 100% protégé et gardé par Jésus jusqu'à la mort. Ce passage nous parle ici de l'importance de parler de Jésus aux enfants. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. Ce rôle qui est important pour les parents peut être aussi partagé par les grands-parents et toutes les personnes qui croisent le chemin de ces enfants et peut avoir un impact énorme. Je suis dans le train pour revenir de chez les grands-parents à Lyon. Et voilà que mon fils, haut et fort, dans le wagon, dit « Papa, tu sais, si jamais on ne croit pas en Jésus, eh bien après, quand on meurt, ben, on va en enfer. » Alors, voilà, c'était vraiment très fort. Tout le wagon a entendu. Et pourquoi? Parce que son grand-père avait pris le temps de lui raconter des histoires de la Bible et lui expliquer le message de l'Évangile. Et ça a fait mouche. Et le gamin, il a compris quel était l'Évangile et quel était le message qu'il fallait entendre. Alors, dans son esprit, c'est très carré, très, très simplifié. Mais l'impact des grands-parents qui voient ponctuellement leurs enfants est parfois énorme. Et c'est encourageant de savoir que on peut avoir un impact, même en tant que grands-parents. Alors pourquoi, je résume pour terminer. Je viens donc, pour résumer, de montrer que on peut empêcher les enfants de venir à Jésus, mais que le défi pour nous, c'est de les laisser venir à Jésus. On peut entrer dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas possible par nos propres forces. Et on a besoin d'être enlacé par les bras de Jésus. Et contrairement à cette photo qui est une photo retouchée, ce que nous venons de partager ce matin nous parle de ce que Jésus veut vraiment vivre avec nous, que nous puissions faire partie de sa famille. Il veut être notre père, il veut prendre soin de nous parfaitement, et que comme le sourire de ses enfants, nous puissions être aussi en pleine sécurité avec lui. Amen.
Merci Colin pour...